T. Combes, Village de Dames. Chapitre 1. Monsieur le voleur. Quand le vaste ciel, la nuit, étend au-dessus des collines noires sa sombre transparence, il y a des étoiles là-haut, mais, en bas, il y a des lampes, et si nous levons les yeux pour contempler, l'intelligence est perdue, cette étincelante et incompréhensible poussière de monde, nous abaissons nos regards avec plus de tendresse vers les petites lumières, passagères et mortelles comme nous, qu'une main allume chaque soir. Elles nous parlent de choses familières, tristes et douces, de la lassitude du jour, de l'aiguille que tiennent encore des doigts fatigués, du livre qu'on feuillette dans la clarté blanche, des rideaux qu'on ferme autour du berceau. Ces lampes sont le symbole visible des existences et les vies obscures, anonymes, sortent de l'ombre, surgissent en points lumineux, se groupent, amies et voisines, chaque petite flamme signifiant une volonté et peut-être une douleur. Tant qu'il fait jour, on songe au moins aux vies individuelles, distrait qu'on est par le grand décor des champs et des bois. Mais la nuit vient, la nature s'efface, et il n'y a plus que des âmes, faibles lueurs qui tremblotent dans l'obscurité. Sur le petit plateau solitaire qui domine la masse épaisse d'un bois, je vois de ces lumières une dizaine tout au plus, ce qui annonce un hameau. Trois par trois, et la dixième fort à l'écart, celle-ci plus brillante que les autres et rouge comme un fanal. Nous nous en approchons. Il y a une barrière, d'abord en latte serrée, et derrière un moutonnement noir de buissons. C'est un jardin. La façade étroite, en pignon pointu, nous apparaît, vaguement éclairée par une fenêtre ouverte, grand carré lumineux autour duquel flotte une buée de clarté. Des franges de rideaux, la guirlande d'un rosier grimpant, remue doucement et encadre de leur réseau noir la baie éclairée. L'étage n'est point si élevé que nous ne puissions apercevoir un plafond à solives peint en gris, clair et brillant, et le sommet d'une lampe avec son abat-jour d'un pourpre intense. C'est cette lampe, comparable à la planète Mars, qui darde dans la nuit un si rouge regard. Quelqu'un lit là-haut, car le léger bruissement d'une page se joint de temps à autre au frôlement doux des feuilles du rosier. Et si une curiosité nous prenait, car à se tenir tout seul dans un jardin noir, l'instinct de sociabilité crie bien vite et soupire après l'être humain qu'on devine si près. Si une curiosité nous prenait, l'escalade de cette chambre ne serait point trop difficile. Avec l'aide de l'espalier où s'accrochent les roses et d'un volet et d'une planche au-dessous de l'embrasure qui paraît solidement fixée et qui est sans doute, en hiver, la table des oiseaux. Mais cette façon d'entrer semblerait insolite. Restons honnêtement en bas, dans l'obscurité. Si quelqu'un, pour vous donner patience et distraction, peut vous expliquer ce pays et ses particularités, et les gens qui l'habitent, c'est bien moi, car j'ai passé ici toutes mes vacances, chez ma cousine Alice, depuis les étés lointains où j'étais petite fille. Un bois, un plateau, puis une pente fort inclinée, 10 maisonnettes bâties il y a quelque 30 ans par mon grand-oncle qui s'y ruina. Il était médecin et, à une époque où l'on exilait tous les phtisiques dans le Midi, il entrevoyait déjà le traitement de la tuberculose par l'air sec et par le soleil hivernal. Il choisit ce coteau que les brouillards n'atteignent point, qu'une forêt protège contre le vent du nord, que les rayons du midi et du couchant baignent de leur chaleur, où il pleut moins que dans les vallées voisines par quelques conditions atmosphériques encore inexpliquées. Il y fonda une station et il fit grand, car cet initiateur était un chimérique, comme presque tous les hommes de quelque génie. Il ne voulut pas de caravansérail où s'entassent les poitrinaires pour tousser ensemble, épier les uns chez les autres les symptômes de leur maladie et se procurer mutuellement des sensations d'hôpital. Il éleva des maisonnettes pour la vie de famille, ce qui, aussitôt, compliqua son entreprise et la rendit infiniment plus coûteuse. Deux ou trois malades dans chaque maison, habitant des chambres fort isolées, prenant leur repas à part, évitant de se réunir avec leurs voisins, cela faisait autant de petits ménages, d'installations séparées, de cuisinières et de gardes-malades. autant de salons, autant de poêles, bref, la négation volontaire de toute économie. Le pécule de mon grand-oncle, père de ma cousine Alice, se consuma aux frais de bâtisse et de mobilier. Encore dut-il laisser vide 5 de ses chalets. Dès le premier hiver, il en loua plusieurs, avec ou sans meubles. La saison, tiède et ensoleillée, servit ses projets. On se promena, on se lugea sur la neige, on respira beaucoup d'air pur, on guérit ou l'on espéra guérir. Dès le second hiver, toutes les maisonnettes furent pleines, car regarde-t-on à la dépense pour sauver la jeune vie d'un fils unique, d'une fille chérie? Le pauvre homme nageait dans la joie et la vogue l'emportait vers un avenir glorieux quand une fatalité épouvantable s'abattit sur la petite colonie. Une épidémie de typhus y éclata. 9 personnes, non des malades, mais de celles qui les soignaient, succombèrent en 15 jours. Ce fut alors une panique indescriptible, un sauve-qui-peut sans armes ni bagages, et puis des accusations et une polémique forcenée dans la presse locale. Le médecin fut traité d'empoisonneur, son sanatorium mis à l'interdit. On analysa l'eau des 2 fontaines, mais la science des bacilles en était, il y a 30 ans, à ses rudiments, on ne trouva rien. Mon grand-oncle, désespéré, s'épuisa en recherche, il fit faire de nouvelles canalisations, il planta des arbres sur ses sources et ses citernes, les entoura de clôtures comme un terrain sacré. En même temps, il bataillait contre ses calomniateurs, les citait devant la justice de paix, obtenait des rétractations bien inutiles. L'opinion s'était emballée. Elle aurait considéré comme un criminel et un fou l'homme assez téméraire pour envoyer ses enfants chercher la santé où tant d'autres avaient trouvé la mort. Quand mon grand-oncle apprit que dans son propre village natal, on l'appelait couramment le docteur Typhoïde, il partit pour l'Amérique. Chercher à vendre une propriété aussi mal famée était illusoire. Il en laissa la garde et le rapport à ma cousine Alice, sa fille unique, qui avait alors une 30aine d'années, beaucoup de raison et de courage. Elle avait combattu aux côtés de son père contre une impopularité qui, pendant quelques mois, ressembla à une persécution et elle en garda le reste de sa vie de l'amertume dans l'âme. Elle devint misanthrope, ne conserva de relations qu'avec 2 ou 3 amis et parents, auxquels elle savait gré d'avoir épousé chaleureusement la cause de son père. Mes propres parents étaient du nombre, ce qui fit que ma cousine Alice m'aima beaucoup dès ma petite enfance. Quand elle eut l'extrême douleur, 5 ans après, d'apprendre la mort de son père sans qu'elle l'eût revue, elle tourna le dos à l'univers entier, elle se fit recluse dans sa maisonnette. Ce fut une désolée et une exaspérée. Cependant, il fallait vivre. Son pessimisme n'avait pas détruit en elle le bon sens. Laisser ce joli hameau à l'abandon, livrer les murs aux lézardes, les jardiniers aux herbes folles, lui parut un crime et une absurdité. Elle appela mon père en conseil et examina avec lui l'inventaire de la succession. En capitale, elle n'avait plus rien. Tant d'années improductives avaient englouti les derniers restes de la fortune du docteur. Restaient les 10 maisonnettes, la petite forêt et les fatales citernes, grevées encore de quelques dettes et d'un mauvais renom tenace. Peut-être, fit mademoiselle Alice, en redressant sa tête et son cou maigre, d'un air de défi altier qu'elle garda toute sa vie, peut-être se trouvera-t-il quelques personnes héroïques pour braver comme moi les chances de typhus qui peuvent être restées au fond des puits. Aux annonces répondit seule, d'abord une vieille fille de bonne naissance mais de chétif revenu qui cherchait la campagne par économie. Elle s'installa et devint l'amie intime de ma cousine Alice qu'elle domina bientôt complètement. Ma cousine lui était reconnaissante du fond de l'âme d'avoir levé l'interdit et d'oser dire partout « Typhus, sottise, on n'a pas le typhus 2 fois dans le même endroit si l'on se tient pour averti et qu'on cure les citernes. C'est moi qui veillerai à ce qu'elle soit curée, je vous en réponds. » Elle en dit tant que les gens se regardaient, commençant à croire qu'ils avaient été pendant 7 ans en proie à une idée fixe morbide. Et comme le hameau était charmant, le site des plus pittoresques et la forêt de sapins fort balsamique, les demandes de location arrivèrent petit à petit, plus nombreuses qu'on n'en pouvait satisfaire. Les deux vieilles filles purent faire un choix dans le nombre des candidats. Par une sélection naturelle, résultant de leurs goûts et de leurs craintes, elles éliminèrent d'abord les familles nombreuses, parce que les enfants, ça écrase les pelouses, ça renverse les barrières et ça pousse des cris aux heures douces du crépuscule. Elles éliminèrent ensuite, au fur et à mesure des occasions, les couples mariés sans enfants, parce qu'il n'est rien de plus égoïste, assurèrent-elles, qu'un couple marié sans enfants. Le mari ne voit que sa femme et la femme que son mari et l'entourage en éprouve de la gêne. Il est superflu d'ajouter, n'est-ce pas, que les célibataires masculins n'avaient jamais pris pied dans la colonie, car cette catégorie de mortels ne possède pas, en général, de ménage et présente divers autres inconvénients, tels que difficultés au sujet de la blanchisseuse, relations délicates entre voisins, invitations impossibles. Tant est que finalement ma cousine Alice, fortement soutenue par son amie, n'admit plus pour locataire que des personnes de son sexe, célibataires ou veuves sans enfants. Oh, la jolie petite colonie, paisible, ratissée et fleurie, et sans tumulte, et des habitudes régulières, le thé à 4 heures, une promenade où ces dames se rencontrent, toutes les portes closes à 10h-15, et le matin, une paysanne du voisinage apporte le bon lait encore chaud, 1 litre à chaque petit ménage, 2 litres s'il y a une bonne, et s'il y a un chat, 1/2 litre en plus. Il se pouvait, les beaux dimanches, que l'élément masculin fît son apparition sur cette scène virginale, car on avait en ville des parentes ou des amis dont il fallait bien aussi inviter les maris. Ces messieurs parlaient politique à table ou crise sociale. Ils fumaient leurs cigares dans les jardinets, de sorte que le lundi matin, nous ne sommes pas trop fâchés de nous retrouver entre nous, mademoiselle Alice. On prit l'habitude, dans le pays, sans ironie ni malice aucune, d'appeler la petite colonie « village de dames ». Cette dénomination devint même officielle et cadastrale. Ma cousine Alice en riait, car ce n'est point l'humour qui lui manque. Mais elle laissa le pli se prendre, et maintenant, pas plus qu'en un couvent de nonnes, un membre du sexe à barbe ne chercherait à s'y établir. La distance du hameau à la ville est de 2 bonnes lieues. Il y a bien un autre hameau derrière le bois, se glorifiant d'une boulangerie où l'on vend du pain frais 3 fois par semaine et les autres jours du pain rassis, mais n'offrant pas d'autres ressources séculières ou sociales. Comme les habitantes du village de dames sont pour la plupart des personnes âgées qui ne courent guère les grands chemins et ne pratiquent point la bicyclette, elles ont peu de rapport avec le monde ambiant. En hiver, il est des semaines et même des quinzaines où elles ne voient aucun visage étranger et où elles en viennent, sans jamais l'avouer, à détester les boucles de mademoiselle Alice, à trouver que les beaux yeux vantés de madame Perrault-Campillon sont décidément surfaits et la conversation savante de mademoiselle Alexandrine Jacquet absolument insupportable. Ce sont là des moments pénibles, mais passagers. Une innocente diversion soulage les nerfs tendus, comme le retour des hirondelles ou la migraine hebdomadaire de madame Lénier-Nicole, ou encore si Frumensette a reçu une visite de sa terrible nièce. Ah, l'on ne sait guère ce qu'il y a de drames en miniature, d'orages de sentiments, de petites batailles sans bruit ni fumée, d'invisibles victoires, de rivalités, de résistances, de luttes pour le bien, de larmes, de prières et de minuscules vanités, dans ce paisible village de dames, banal et pomponné, comme on ne saurait compter ce qu'il y a de moucherons qui dansent au soleil dans un jour d'été. Chaque moucheron a son heure de vie, de crainte, de mort, et son histoire lui paraît sans doute la plus intéressante qui ait jamais été. Ma cousine Alice, qui a le goût des aphorismes, dit souvent « tout est dans tout ». Et cela me rendait rêveuse quand j'étais petite fille, jusqu'à ce que ma cousine commençât à m'expliquer cette sentence abstraite par une histoire vraie du propre village de dames que j'avais sous les yeux. Ce qui fait que je les sais toutes et que je puis les compter à mon tour. La maisonnette où je vous amène, d'où sort la lueur pourpre d'une lampe encapuchonnée de soie, est précisément celle de ma cousine. Elle l'habite seule avec sa bonne, une jeune fille récemment engagée, car il faut confesser que Mademoiselle Alice Métral change souvent de bonne. Dans la famille, nous continuons à garder l'espoir que la dernière venue sera enfin le trésor désiré. Ma cousine se fait vieille. Il serait temps qu'on l'a compris, si elle doit être comprise en ce monde. « Je me verrai contente, dit-elle, quand j'aurai trouvé une bonne qui me comprenne et qui ne se fâche point si je lui dis « Élise ou Françoise, au prochain concours de sottise, vous aurez le grand prix. » Pour me prouver que j'ai raison, elle se fâche, la bécasse, et nous nous séparons avec une satisfaction réciproque. La bonne actuelle n'a jusqu'ici d'autre défaut que de s'appeler Clermonde, et elle refuse de se séparer de cet aristocratique prénom, assurant que ses père et mère ont eu de bonnes raisons pour le lui donner, sachant qu'ils ne lui laisseraient rien d'autre. Elle rit, elle frôde, elle a des répliques qui sont drôles sans être impertinentes, et quand il fut pour la première fois question du prix de sottise, elle répondit sans s'émouvoir « Ça ne m'étonnerait pas, j'ai toujours eu tous les prix. » Mademoiselle Alice respira. « Voilà, songea-t-elle, un cap difficile qui est doublé. Clermonde me comprend. » Il y avait encore une autre pierre de touche. Ma cousine est sujette à des malaises la nuit, à de l'oppression et à des accès de toux. Elle aime qu'on s'en aperçoive, non pour se déranger et entrer chez elle, mais pour lui offrir des condoléances au matin. Clermonde négligeait absolument ce pieux devoir, si bien que sa maîtresse, après avoir attendu vainement jusqu'à midi, prononça enfin avec quelque sévérité « Clermonde, vous m'avez entendu tousser cette nuit ?»« Mais non, mademoiselle !» fit Clermonde d'un ton contrit. Et elle ajouta « Moi, il faudrait qu'on tousse avec des tambours pour me réveiller. » Mademoiselle Alice rit et pardonna, déclarant qu'après tout, et à sa manière, Clermonde la comprenait. Ma cousine a une passion, l'astronomie, et une mission, faire partager à d'autres cet enthousiasme. Mais elle n'est point parvenue à enflammer pour la noble science aucune de ses bonnes précédentes. Avec Clermonde, elle renaît à l'espoir. Cette jeune fille a l'esprit vif et gai, tout ce qui sort de la routine l'enchante. Là-haut, dans la chambre à lampe rouge, on marche, on furette, puis une voix un peu cassée, un peu aigrelette, s'élève et crie « Clermonde, êtes-vous prête? Voici l'heure où la constellation du Sagittaire se montre sur son aspect le plus favorable. » « Je suis prête, mademoiselle, j'ai la lanterne, » répond une voix claire. « Mademoiselle, n'oublie-t-elle pas la jumelle ?» Là-haut, on ouvre précipitamment un tiroir et l'on réplique avec vivacité « Oubliez la jumelle et commandons. Mais vous, Clermonde, avez-vous le pliant ?»« Oui, mademoiselle, et aussi votre châle. » La porte de la maison s'ouvre et les deux femmes paraissent en silhouette noire au sommet du petit perron de trois marches que la vieille demoiselle descend d'un pas alerte. Mais sa jeune bonne, au moment de tourner la clé dans la grosse serrure, lève les yeux vers la fenêtre de l'étage et s'écrie « Mademoiselle a oublié d'éteindre sa lampe. Vite, je remonte. »« Point du tout, » fait la maîtresse d'un ton vexé. « Je n'y ai point pensé, je l'avoue, mais c'est une très bonne idée que j'ai eue là. Nous verrons mieux notre chemin jusqu'à la grille, et puis j'aime trouver une lumière quand je rentre. » Clermonde ne souffle mot, mais elle ne peut s'empêcher de tourner la tête à plusieurs reprises vers ce grand réverbère qui pourrait bien fumer en leur absence et moucheter l'appartement de flocons de suie. Cette inquiétude lui gâte un peu le plaisir d'aller contempler les étoiles avec une jumelle. La grille grince d'une voix qui ressemble à celle de Mademoiselle Alice. La petite lanterne balance sur le sentier un éventail de lumières blanches. Les deux frêles silhouettes féminines s'effacent doucement dans la nuit. Alors, avec des précautions soupçonneuses, avec un imperceptible frôlement des buissons, une forme noire se coule hors de l'ombre, une tête s'avance, furtive et inquiétante, pour écouter. Elle se retire, elle s'allonge de nouveau, un grand corps surgit debout, rasant la muraille et se glissant vers le perron par petites étapes silencieuses. Tout à coup, il s'élance, franchit d'un saut les marches, saisit la poignée de la porte et la secoue d'une saccade furieuse. Le pêne ne cède point et l'homme, d'un nouveau bond aussi rapide que le premier, se rejette dans l'ombre à l'angle de la maison, s'y blottit pour concerter un nouveau plan d'assaut. Il a vu les femmes s'éloigner et sait qu'il n'a pas de temps à perdre s'il veut profiter de leur absence. Il examine la muraille obscure, le treillis du rosier, la bande d'éclatante lumière qui tombe de la fenêtre ouverte. Lentement, mais d'un pied sûr, il commence son escalade par le rebord de la croisée du rez-de-chaussée, par le volet, par les lattes de l'espalier, par la planche aux oiseaux. Ses doigts cherchent un gond pour s'y accrocher, son autre main s'enfonce dans l'embrasure, saisit l'encadrement. Une enjambée, puis un bruit mat de pas sur le plancher, et aussitôt un tapage précipité, brutal, à faire crier, pâmer d'horreur, une vieille personne méticuleuse, car ce sont des tiroirs qu'on ouvre, qu'on bouleverse, des objets qui s'écroulent sur le plancher. 10 minutes au plus, et l'homme reparaît, découpé comme une ombre chinoise, comme un diable noir sur la clarté rouge. Il est debout dans la fenêtre, il tourne lentement sur lui-même et de sa main pendante tombe parmi les touffes confuses de la plate-bande deux gros souliers qui sans doute l'ont gêné pour la montée et qui l'ôtent pour la descente plus périlleuse encore. Du milieu des plantes froissées s'évapore une vague odeur de réséda comme réveillée. Du bout de ses orteils, l'homme tâtonne, cherche son chemin. Il descend, il est suspendu par les doigts au rebord de la fenêtre, un pied sur l'espalier, l'autre pied à la découverte. Subitement, le mince croisillon de bois craque net, les deux jambes s'agitent un instant, les mains lâchent prise. Une lourde masse noire tombe à la renverse, touche la terre, ne bouge plus. « Mademoiselle Alice, vos pauvres tiroirs sont vengés !» Cependant, ma vieille cousine et sa bonne étaient arrivées au sommet d'une éminence découverte, d'où l'on pouvait contempler un très vaste ciel. Un petit banc de bois se dressait dans l'herbe, mais Clermont ouvrit son pliant au milieu du chemin caillouteux, afin que sa maîtresse ne risquât point d'avoir les pieds mouillés. Mademoiselle Alice s'assit posément, tira la jumelle de l'étui. « Mettez-vous derrière moi, Clermont, et orientez-vous. Cherchez Véga. » « Avez-vous Véga ?»« Oui, mademoiselle, je la tiens. Ah, je voudrais bien avoir éteint cette lampe. »« Quelle lampe ?»« Celle de mademoiselle. J'ai comme un pressentiment de malheur. Si un voleur allait entrer. »« Ma pauvre fille, dit mademoiselle Alice en haussant les épaules, ne savez-vous pas qu'une lampe allumée est la meilleure sauvegarde qu'il y ait pour une maison ? Les méfaits s'accomplissent dans l'obscurité. Revenons à nos étoiles. » « Qu'est-ce que nous tenons, Clermont ?»« Nous tenons la lyre dans Véga. »« Non pas, Véga dans la lyre. »« Notre carte nous indique 7 étoiles dans cette constellation. »« Nous allons les vérifier. » La grande idée astronomique de mademoiselle Alice était de vérifier les étoiles par sa carte à l'aide d'une lanterne. Si le ciel lui révélait un point lumineux omis par la carte, c'était le ciel qui avait tort. Dans ses jours d'indulgence, elle disait « Bah, ce ne sera qu'un astéroïde. » 7 étoiles, parfaitement, elles y sont. Les avez-vous vues et comptées, Clermont ? Cette constellation étant vérifiée, passons à une autre. Le signe nous a donné déjà bien du mal. Sur la carte, il semble qu'il ait les deux pattes en l'air, mais je vous ai déjà expliqué, Clermont, que les lignes qui relient les étoiles sont fictives. « Moi, je les vois, » dit la petite bonne avec assurance. « Comment, vous les voyez ?»« Oui, quand je cligne les yeux, ça fait des traits de feu qui partent d'une étoile à l'autre. Je les vois très bien. Il a une patte beaucoup plus longue que l'autre et un long cou, mais pas de tête. » « Ce n'est pas là de l'astronomie sérieuse, » dit mademoiselle Alice un peu fâchée. « L'essentiel est de vérifier si les 22 étoiles du signe y sont bien. » Hier soir, nous n'en trouvions que 19. Prenez la jumelle et comptez. Quand elles y seront, nous donnerons un coup d'œil au Sagittaire et puis nous rentrerons chez nous, car je commence à me sentir les pieds un peu humides. Il y a une étoile qui est si petite sur la carte, que jamais je ne la trouverai, songeait Clermont en fouillant les cieux de sa jumelle. Bah, j'en emprunterai une au tas d'à côté pour ce soir. Autrement, mademoiselle aimerait mieux s'enrhumer que de quitter la place avant d'avoir son compte. » Ce qu'elle fit, elle emprunta une étoile, eau toute petite, à ses fées, et compta triomphalement jusqu'à 22. « Vos yeux sont meilleurs que les miens, Clermonde, » dit sa maîtresse. « Je sais que je peux me fier à eux. » La fillette baissa la tête, prise d'un remords, et se promit de poursuivre ses recherches, sa maîtresse une fois couchée, jusqu'à ce qu'elle eût mis la main sur l'étoile insaisissable. « Voyez, » dit mademoiselle Alise, tandis que Clermonde ouvrait la grille du jardin, « combien il est agréable d'être accueilli par cette lampe. C'est une bienvenue. » Pourquoi vous arrêtez-vous, ma fille ? Clermonde, comme pétrifiée, les yeux en arrêt, ne bougeait plus. Restez ici, mademoiselle, dit-elle enfin d'une voix un peu étranglée. Je crois que je vois. Ce n'est peut-être rien, mais attendez. Elle courut, non pas vers le perron, mais vers le rosier grimpant et la plate-bande sous la fenêtre. Qu'est-ce donc ? Cria mademoiselle Alise, impatiente et un peu essoufflée, et la suivant le plus vite qu'elle put, car elle n'était pas femme à jouer un second rôle dans n'importe quel drame. « Pas grand-chose, c'est un homme. »« Par exemple, un homme chez moi, il faut qu'il ait bu. Venir cuver son vin dans mon réséda ? » exclama-t-elle avec indignation. « Ah, cela leur ressemble bien. »« Qu'est-ce que mademoiselle désire que je fasse ?» demanda Clermonde, la lanterne à la main, attendant ses ordres, comme s'il se fût agi d'un nettoyage ordinaire. « Le tirer par les pieds hors du jardin, assurément. Ça dérangera le gravier de l'allée et ça écorchera nos bordures, mais qu'y faire ? Vilain mauvais sujet ! Allons, Clermonde, courage ! Prenez un pied et moi l'autre, finissons au plus vite cette écœurante besogne. » « Ma foi, dit Clermonde, ce n'est pas aussi facile que mademoiselle croit. Il a un pied replié sous lui. »« Ça se déplie, j'imagine. Pourriez-vous dormir en sachant cet homme abject dans le jardin ?»« On pourrait peut-être appeler quelqu'un, » suggéra la petite bonne qui hésitait. « Et qui donc ? De pauvres femmes plus faibles encore que nous ?» « Clermonde, si vous étiez dans une île déserte, vous seriez bien obligée de vous tirer d'affaire toute seule. C'est moi qui dégagerai ce pied pour vous donner l'exemple. » Se baissant, elle noua ses deux petites mains sèches gantées de chamois gris autour de la jambe de l'homme et tira subitement de toutes ses forces. Un gémissement rauque sortit de la masse qui remua. « Ah, mon Dieu, je lui ai fait mal !» murmura mademoiselle Alise en lâchant prise et en regardant Clermonde d'un air consterné. Peut-être qu'il n'est pas ivre après tout. Il est malade, ou blessé, ou bien il a faim. Moi, je crois qu'à toujours supposer le mal, on se trompe des fois, dit Clermonde pleine de reproches. C'est possible, acquiesça la maîtresse avec humilité. Mais elle reprit aussitôt le dessus en ajoutant: Vous reconnaîtrez, Clermonde, combien j'ai eu raison de laisser une lampe allumée, car si nous étions rentrés sans apercevoir le pauvre homme, il aurait passé toute la nuit dehors. » Un nouveau gémissement l'interrompit. Alors les deux femmes se penchèrent, approchant la lanterne d'un visage qui leur apparut pâle et rébarbatif, hérissé d'une grosse barbe dure. « Vous souffrez, mon ami ?» demanda mademoiselle Alise, qui avait en elle l'âme de son père, le médecin. Les yeux s'ouvrirent, très noirs, puis se refermèrent, comme effrayés ou éblouis. La main eut un mouvement effaré, chiffonna la blouse un instant, et puis se crispa sur la poche du pantalon. « Il cherche quelque chose, peut-être son mouchoir, » murmura Clermonde. « Faut-il lui aider ?» « Mais certainement, » répondit sa maîtresse d'un ton vif, « et dépêchez-vous de le faire. Nous sommes ici pour lui porter secours. » Elle gardait sur le cœur le blâme de Clermonde et s'accusait elle-même d'avoir manqué de charité. « C'est qu'il m'empêche. Il serre entre ses doigts un objet qui est à moitié sorti de sa poche. Il ne veut pas le lâcher. » C'est peut-être une gourde contenant un cordial dont il sent le besoin, fit mademoiselle Alise, qui pour rien au monde n'aurait prononcé le mot d'eau-de-vie. Comme vous savez, Clermonde, je suis loin d'être partisan des spiritueux. Mais cependant, s'il allait s'évanouir de nouveau. C'est un objet en cuir, dit la bonne dont les petits doigts minces avaient réussi à se faufiler dans la grosse main osseuse et fermée. C'est sa bourse, tout bonnement. Allons donc, mon brave homme, vous n'avez pas peur qu'on vous la vole, dites. Tenez-vous tranquille pendant que je la renfonce dans votre poche. Elle est bien pleine, cette poche, poursuivit Clermonde, d'un ton qui devint tout à coup soupçonneux. Et cette bourse, comme je la sens, elle est bien mignonne pour un homme qui n'a pas mis de souliers. Lâchez-la, je vous dis. Mademoiselle, cria Clermonde, élevant d'une main la lanterne et de l'autre sa capture. C'est votre porte-monnaie. L'homme se souleva, puis se tordant péniblement, il essaya de se mettre debout, mais une douleur fort aiguë le fit retomber par terre, et il resta là, assis, tenant à deux mains sa jambe pliée. Ses yeux mornes, plutôt ahuris que mauvais, regardaient fixement les deux femmes. « Être pincé par des dames, marmotta-t-il d'une voix enrouée, la voix d'un homme qui a dormi toute une saison à la belle étoile. « À présent, videz votre poche, voleur que vous êtes !» fit Clermonde, toute vibrante d'indignation et agitant son petit poing fermé. Mais alors sa maîtresse s'interposa. « Avez-vous remarqué que les misanthropes sont presque toujours des cœurs généreux qui peuvent bien détester leur espèce, mais qui ne lui décocheront jamais le coup de pied de l'âne ?»« Le pauvre homme est par terre, dit mademoiselle Alice. Nous lui parlerons poliment. » Étonnée, Clermonde regarda sa maîtresse, si âpre, si grondeuse à l'ordinaire. Dès cette minute, elle la comprit et l'aima. « Si vous avez encore sur vous quelque chose qui m'appartienne, poursuivit mademoiselle Alice, je vous prie de bien vouloir me le restituer. » L'homme, ne tenant plus que d'une main sa jambe froissée, se mit de l'autre main à tâter ses poches et ses vêtements. Sous l'œil sévère et pourtant amusé de mademoiselle Alice, car ma cousine aperçoit aisément le côté comique des choses, il déposa docilement autour de lui une foule d'objets divers. Des mouchoirs de poche en grand nombre, une écharpe de dentelle noire, un tablier de soie, plusieurs petites boîtes contenant des bijoux sans grande valeur, un petit portefeuille en maroquin gris qui servait de chasse à des reliques d'amitié, boucles de cheveux et fleurs sèches. « J'aurais regretté mon petit portefeuille, » dit mademoiselle Alice. L'homme continuait son déballage. « J'ai laissé les gants, nous n'avons pas la même pointure, » fit-il avec une éclaircie de sourire gouailleur dans sa grosse barbe. « Ma foi, c'est tout, je crois bien que c'est tout. Ramassez mon bien, Clermonde, emportez-le dans la maison et revenez immédiatement, » commanda mademoiselle Alice. Le cas du voleur étant ainsi liquidé, restait l'homme blessé qui était un hôte. « Croyez-vous, demanda-t-elle, que vous puissiez faire deux ou trois pas en vous appuyant sur nous ?»« Si je pouvais faire des pas, répondit le vagabond assez rudement, je ne serais pas ici, j'aurais déjà dévissé. »« Tâchez cependant de vous mettre debout, dit mademoiselle Alice sans se départir de son calme. Nous ne sommes pas assez fortes à nous deux pour vous porter. »« Me porter où ? » cria-t-il. « Mais chez moi, dans la maison. » À vous voir, j'ai pas mal d'expérience, vous avez le genou luxé. Il vous faudra quelques soins. » L'homme poussa un éclat de rire railleur. « Oui, oui, je sais. Des soins, des gendarmes, pas vrai? Vous allez téléphoner? Alors, c'est pas la peine de me remuer, je peux bien les attendre ici. » Mademoiselle Alice, un peu confuse de n'avoir pas songé elle-même à cette ressource et jugeant plus prudent de ne point révéler à son prisonnier qu'il fallait aller à l'autre bout du hameau pour le téléphone, répondit seulement « Avec ce genou, vous ne sauriez vous sauver bien loin et vous seriez mieux dans un lit. Un lit, ce sera du nouveau pour moi, » mâchonna-t-il d'un air songeur. Pour n'être pas en reste de politesse, il ajouta « Et puis, vous savez, rien à craindre. Je me suis baigné pas plus tard qu'hier et j'ai fait ma lessive. » Mademoiselle Alice frissonna de la tête aux pieds. Elle n'avait pas entrevu toutes les suites possibles de son élan d'hospitalité. Mais il était dans sa nature de ne point savoir reculer. D'un pas ferme, elle alla au-devant de Clermonde qui pressement descendait le perron. « Clermonde, dit-elle, et sa voix brève coupait court aux objections, vous mettrez des draps ordinaires au lit de la chambre d'amis, et dans l'armoire de l'escalier, écoutez, sur cette pile de vieilles chemises d'homme, des chemises de mon père, vous en prendrez une que vous placerez sur le lit, bien en évidence. Ensuite, vous irez à la buanderie et vous ferez un bon feu, de façon à ce que nous ayons dans une heure une chaudière d'eau bouillante. » Puis elle retourna auprès de l'éclopée, qu'elle trouva debout, se tenant tant bien que mal en équilibre sur un pied. Avec de l'aide, et non sans quelques jurons étouffés, qui étaient sa façon naturelle de dire « aïe », il gagna le perron, se traîna jusqu'au haut des marches et pénétra dans le petit vestibule. Promenant autour de lui un regard habitué à noter les portes et autres ouvertures propres à la fuite, il considéra le joli escalier à balustrade de bois, aux marches cirées, dont le brun luisant était coupé par le ruban d'un tapis rouge. « Matin !» fit-il avec le gros rire qui écartait les broussailles de sa barbe. « Si j'avais pu grimper par là, je ne me serais pas esquinté ma guibole. Prenez pas la peine, madame, prenez pas la peine, ça ira parfaitement, » dit-il avec amabilité, écartant la main secourable de mademoiselle Lise. Il céda de la balustrade, se hissa lui-même à la force du poignet et atteignit le palier du premier étage avec une rapidité que mademoiselle Alice trouva fort alarmante. Cependant, l'homme était pâle, sous la veilleuse suspendue au plafond. Il s'accota à la muraille et resta une minute sans bouger. Puis il reprit l'air de bravade narquoise qui semblait lui être ordinaire. « Pas par là, hein ?» fit-il en montrant du doigt une porte qui lui faisait vis-à-vis. « C'est la chambre de madame. J'ai peur que madame ne la trouve en désordre, parce que nous autres, n'est-ce pas, on est obligés de faire vite plutôt que bien. Ici, vous m'accorderez que ma cousine Alice n'est pas une femme ordinaire. Appartenant au sexe vertueux et se trouvant en face d'un aussi beau cas de perversité, elle résista au désir de sermonner cet homme qui clignait de l'œil et se contenta d'ouvrir une autre porte. « Nous vous logeons ici, » dit-elle. « Tout est préparé, mettez-vous au lit et je viendrai dans un quart d'heure examiner cette foulure. »« Je serai comme un prince, » répondit-il avec courtoisie. Quand elle vit l'enflure déjà énorme, livide, de la jambe et du genou, mademoiselle Alice comprit que l'homme avait dû souffrir mort et martyr à monter l'escalier. Elle-même, n'étant point plaignante, aimait le courage physique. « Je vous fais mal ?» demanda-t-elle, tandis que de ses minces doigts secs, elle massait et pétrissait cette chair tuméfiée, ainsi que son père lui en avait enseigné autrefois la pratique. « Les dames ne font jamais mal, » répondit l'homme galamment. Mais sa figure se contractait en une grimace incoercible à chaque passage de ce petit pouce énergique qui s'incrustait au long des muscles pour les repousser en leur lieu. « Dans 10 à 12 jours, vous serez sur pied, grâce à cet onguent dont mon père m'a laissé la recette, » poursuivit mademoiselle Alice d'un ton encourageant. Elle remplissait le creux de sa main d'une pommade verte qui fleurait bon l'arnica, puis elle reprenait son massage avec un nouvel enthousiasme et ses boucles grises se balançant sur ses joues accompagnaient en cadence le mouvement de son bras. « Comment l'accident est-il arrivé ? » demanda-t-elle pleine de sympathie, car le parfum de l'arnica réveillait en elle l'instinct guérisseur héréditaire et endormait tous les autres. « C'est en descendant, » fit l'homme qui marqua pour la première fois un léger embarras. « L'espalier était pourri, je suppose. Il s'est rompu sous mon pied. »« Quel malheur !» murmura distraitement mademoiselle Alice en reprenant de la pommade. « Je savais bien que cet espalier était pourri, mais c'est comme les ponts, on ne les répare que lorsqu'il est arrivé un accident. »« Ma foi, j'ai envie de vous réclamer des dommages-intérêts, » fit son patient qui saisit aussitôt l'humour de la situation. Elle s'arrêta de frotter et le considéra. « Tiens, vous n'êtes pas bête, » fit-elle d'un air approbateur. Le massage étant fini, sa main habile procéda non moins soigneusement au bandage, puis plaça la bougie et un verre d'eau à portée du lit. Au moment de sortir, mademoiselle Alice s'arrêta sur le seuil. « Vous m'excuserez si je vous enferme, monsieur le voleur, » dit-elle, « je vous connais si peu. » « Faites, madame, faites à votre aise, » répondit-il avec une grande politesse. Sur le palier, mademoiselle Alice trouva sa fidèle Clermonde qui brandissait une serpe et se tenait prête pour une intervention à main armée au premier cri d'alarme. « Quelle sottise !» dit sa maîtresse. « Ah, je l'ai trop bien ficelé pour qu'il bouge. Cependant, il y a des convenances à ménager, puisque nous avons le malheur d'avoir un homme dans la maison. Vous coucherez dans ma chambre, sur la chaise longue. » Elles s'assurèrent de toutes les portes et de tous les volets, puis elles tournèrent la clé deux fois, puis elles éteignirent leurs lampes et passèrent une nuit pleine d'horreur. Mademoiselle Alise se reprochait, avec des crispations de remords, d'exposer la jeune vie de Clermonde aux entreprises d'un bandit. Et que dirait son amie intime, Mademoiselle Alexandrine Jacquet, quand on trouverait au matin deux femmes égorgées dans une maison mise au pillage? Dormez-vous, Clermonde? Ah, mais non, mademoiselle, que je ne dors pas! J'écoute. Qu'entendez-vous? Rien du tout, mais ce n'est qu'un commencement. Dormez, ma fille, c'est moi qui écouterai. Je ne sais trop pourquoi je n'ai pas sommeil. 10 minutes plus tard, c'était Clermonde qui reprenait à voix basse. Mademoiselle! Dormez, Clermonde. Ça ne se commande pas. Je voulais dire à mademoiselle à propos des étoiles. La 23e du signe, je ne la trouvais pas, et je l'ai prise dans le tas d'à côté pour en finir. Ah, Clermonde, moi qui me fiais à vous. Oui, mademoiselle, c'est très mal. C'est pourquoi je l'avoue, au cas où il nous arriverait quelque chose. Comme dans la poésie, « Sais-tu si tu verras encore, demain se lever le soleil ?» Clermonde prononça ces vers touchants d'une voix qui se brisa, puis on entendit le froissement des couvertures qu'elle se tirait par-dessus la tête. « Vous êtes parfaitement ridicule. Comment voulez-vous qu'avec toutes les portes fermées, la tienne, la nôtre ?»«
Si ton soir aura notre aurore, ton coucher un nouveau réveil !» poursuivit la voix étouffée dans les couvertures. « Je récitais ça quand j'avais 5 ans et ça me revient tout à coup.
« Mademoiselle !»« Quoi encore? J'ai besoin de me recueillir et vous m'interrompez sans cesse. »«
Mademoiselle a oublié l'eau bouillante. » »«
Je n'ai rien oublié du tout, » répondit la maîtresse, avec un vif accent de contrariété, car ses défaillances de mémoire l'humiliaient et elle n'en convenait jamais. « C'est vous qui avez négligé de m'avertir. »«
Oh, mademoiselle !»
« M'avez-vous averti, oui ou non ?»«
Eh bien non, ça m'a passé. »«
Vous voyez bien. Cependant, je vous excuse en raison des circonstances. Il sera temps demain de bouillir les habits de notre homme. Et maintenant, dormons. » Une demi-heure s'écoula en silence. Mademoiselle Alise était en proie à un de ces accès de lucidité que connaissent toutes les femmes qui ont bu trop tard une tasse de thé ou reçu une nouvelle émouvante au moment de se coucher. Elle voyait à travers les portes et les murailles, elle percevait distinctement la tête barbue de l'homme sur son oreiller et sa grosse main qui s'agitait dans les plis de la couverture. Elle aurait voulu enfuir son esprit de cette chambre, mais il y restait comme en sentinelle. En même temps, sa clairvoyance dédoublée visitait les tiroirs et l'armoire en plein saccage où Clermonde avait rejeté pêle-mêle tout le butin du voleur.
« Mon tablier de soie chiffonné sous les mouchoirs !»
soupirait douloureusement la méticuleuse vieille demoiselle. À la fin, elle se leva, elle n'y pouvait plus tenir. Elle alluma la lampe, enfila son peignoir de laine grise et, tout doucement, pour ne point réveiller Clermonde qui paraissait endormie, elle alla à sa commode, sa chère belle commode en marqueterie, au grand tiroir ventru. Jusqu'à l'aube, elle secoua, lissa, plia, empila ses petites affaires soignées et délicates. Elle compta ses mouchoirs. Il n'y manquait que ceux qu'elle savait être à la lessive. Depuis les grands mouchoirs qu'elle tenait de sa mère, en forte toile de fil, grands comme de petites nappes, et qu'on appelait des mouchoirs d'enterrement, parce qu'on les recevait en souvenir aux funérailles de ses proches, jusqu'à la douzaine festonnée en rose que sa marraine lui avait donnée pour l'anniversaire de ses 15 ans, et dont elle n'avait jamais égaré un seul, jusqu'aux mouchoirs de rhume, usés et souples, et aux mouchoirs du dimanche en fine batiste, aucun ne manquait à l'appel. Mademoiselle Alise fit ensuite avec lenteur et complaisance la revue de ses dentelles, de ses petits calepins, de ses petites boîtes. Elle les remit en leur place, gardant ses tiroirs bien ordonnés. Chaque objet avait depuis 20 ans sa place immuable. Les mains croisées, secouant la tête d'un air perplexe et navré, elle regarda longtemps une petite case vide dans un cartonnage blanc et or qui avait autrefois contenu les pastilles de chocolat.
« Mon pauvre petit flacon » soupira-t-elle.
Puis elle serra les lèvres et prit une résolution. Le matin entrait en un poudroiement de lumière blanche par le trèfle découpé dans les volets. Mademoiselle Alise, un peu frissonnante, se recoucha. Alors ce fut une vie de mystère qui commença, et d'émotions et de palpitations et de conciliabules entre les deux femmes pour cacher l'hôte, le proscrit. Car c'était un proscrit maintenant. Au bout de 24 heures, elles avaient complètement oublié qu'il s'était introduit chez elles en voleur. Il souffrait beaucoup, il était patient, drôle, courtois à sa manière, il avait toute leur sympathie. Elle se répétait ces mots derrière la porte, et Clermonde était même un peu jalouse de sa maîtresse, à qui l'homme avait promis de raconter son histoire. Leur paisible existence se trouvait bouleversée en ses profondeurs, bien que la surface demeurât unie, impénétrable. La laitière arriva au matin, dans un émoi peu ordinaire. C'était une grosse femme placide qui ménageait ses mouvements à cause d'une maladie de cœur dont elle se croyait menacée. À peine entrée dans la cuisine, elle se laissa tomber sur un tabouret. « 2 litres de lait aujourd'hui, s'il vous plaît !» dit Clermonde en s'efforçant d'avoir un ton naturel quand, au contraire, le sentiment d'une situation dramatique, inouïe, la faisait vibrer d'orgueil et d'effroi. « 2 litres, ça me met un peu à court par rapport que notre bergère est tarie. Vous en faudra-t-il autant que ça demain ?»« Demain, oui, et toute la semaine, » répondit Clermonde en se détournant pour saisir une casserole dont elle n'avait que faire. « Vous avez des visites ?» demanda Madame Bornet avec le large sourire mou qui semblait émaner de toute sa grasse personne. Clermonde s'examina sérieusement afin de savoir si sa conscience l'obligeait à appeler Monsieur le voleur une visite, car Mademoiselle Alise lui avait dit « Ma fille, nous ne mentirons pas, même pour le sauver. Seulement, il y a manière de faire. » « Non, répondit-elle enfin d'un ton déterminé. Nous n'avons pas de visite. » Des malades, alors ? Mademoiselle Alise serait-elle au régime du lait ? Moi, pour mon cœur, le docteur m'a ausculté et puis m'a mis au lait, mais c'est une pénitence quand on n'est plus un veau de 15 jours. Voyons, mademoiselle Clermonde, vous n'avez pas de malade, vous êtes toute drôle ce matin. Non, dit la petite bonne, avec la même lenteur consciencieuse, après avoir décidé en elle-même qu'un blessé n'est pas un malade. « Allons, tant mieux. Dans un ménage, il y a des puddings, des crèmes et puis le lait caillé qui est rafraîchissant par les chaleurs, » poursuivit la paisible laitière, s'accordant à elle-même l'explication qu'on lui refusait. « C'est cela, » répondit Clermonde avec empressement. « J'ai à faire une crème ce matin. » En lui donnant des ordres, Mademoiselle Alise avait dit « Faites une bonne crème au citron, ma fille. Je suis sûre que le pauvre homme n'en a pas goûté depuis longtemps. » Je lui trouve peu d'appétit. Tâchons de le tenter par quelque douceur. » Ce que j'avais à vous dire, reprit Madame Bornet, quand elle eut rempli avec sa mesure de fer-blanc le grand pot brun posé devant elle, j'allais presque l'oublier, car un rien me fait perdre le fil. N'oubliez pas, mademoiselle Clermonde, de bien fermer vos contrevents ce soir, car un brigand rôde dans le pays. « Ah, mon Dieu !» fit Clermonde, devenant toute blanche. « Oui, un détenu libéré, » continua Madame Bornet, assez fière de l'effet produit. « Un homme dangereux qui ne demande qu'à recommencer ses coups. Il est sous la surveillance de la police. Le gendarme s'est arrêté hier chez nous pour se rafraîchir et il a averti mon mari, vous savez, histoire de se tenir sur ses gardes si on le rencontrait ou s'il demandait à coucher. Voyez-vous ça, s'il venait demander à coucher ici, qu'est-ce que vous feriez ?»
« Je ne sais pas !»
murmura Clermonde, qui semblait bouleversée. « Vous mettriez le verrou, j'espère. Il a fait ses 3 ans de pénitencier pour vol. À présent, aura-t-il le goût de mener une vie honnête ? Peut-être que oui, peut-être que non. le gendarme penché pour non. Mais alors, s'il joue un nouveau tour et qu'on le repince, il en a pour 5 ans au moins. Les braves gens pourraient dormir tranquilles, soupira la bonne femme. En s'en allant, elle se retourna sur le seuil. Il a une grosse barbe et des yeux noirs et des habits bruns. Vous devriez conseiller à Mademoiselle Alice d'avoir un fusil ou un chien, puisque vous n'avez pas d'homme dans la maison. Clermonde courut d'un trait au premier étage, où elle rencontra sa maîtresse sur le palier. « Il va mieux, » chuchota Mademoiselle Alice, la figure toute réjouie, ses boucles grises se balançant en grimpe de chaque côté sous la frisure blanche de son bonnet. Il assure qu'il a bien dormi et que son déjeuner lui a fait plaisir. En quelques mots essoufflés, la petite bonne répéta les sinistres avertissements du gendarme. « C'est une indignité !» s'écria Mademoiselle Alice. « S'il a fait ses 3 ans, ne saurait-on le laisser tranquille ? Je suis sûre qu'il était plein de bonnes intentions et désireux de commencer une vie toute nouvelle. » Elle s'interrompit, regarda Clermonde, qui la regarda aussi, et toutes deux se mirent à rire. « C'est vrai, » fit la vieille demoiselle confuse, « nous oublions un peu, mais à tout péché miséricorde. Je crois qu'il ne recommencera pas. Prions pour lui, ma fille, et faites une bonne crème bien épaisse. Ah, si le gendarme croit qu'il mettra la main sur lui, non, non, je veillerai. Et je vous défends, Clermonde, je vous défends, entendez-vous, de dire à personne que le pauvre homme nous a causé d'abord quelques désagréments. » « Comme si j'en avais envie !» dit Clermonde avec quelque indignation. Mademoiselle Alice aimait beaucoup son amie, Mademoiselle Alexandrine Jacquet, et elle la voyait chaque jour 2 ou 3 fois. Elle lui disait tout, lui demandait conseil dans toutes les circonstances, grandes ou petites. Cependant, comment lui avouer qu'au mépris des principes qui réglaient l'existence du village de dames, il y avait un homme caché dans la maison et que cet homme était un voleur? Mademoiselle Alexandrine n'eut certainement pas compris le côté poétique de la situation. Elle aurait désapprouvé qu'on fît des crèmes. De plus, comme elle était extrêmement consciencieuse, elle aurait peut-être vu son devoir à avertir la gendarmerie. Oh, combien épineuses, avec ce secret à garder, devinrent les relations quotidiennes, autrefois si pleines de doux épanchements. Et quel changement dans cette amitié qui, de la part de Mademoiselle Alice, était toute soumission admirative, du côté de Mademoiselle Alexandrine, tout despotisme, affectueux mais tenace. Depuis 20 ans, ma cousine, rebelle à d'autres joues, obéissait à son amie, plus âgée qu'elle de 4 ou 5 années seulement, mais impérieuse, pleine de ressources, d'esprit pratique et de conscience exigeante. Comme elle s'y attendait, avec un battement de cœur, Mademoiselle Alice vit, au lendemain de l'installation du proscrit, vers 3 heures de l'après-dîner, son amie intime entrait dans la maison. Petite et menue, les yeux noirs, les cheveux tout blancs, poudrés et coiffés en marquise, toujours mise avec goût, Mademoiselle Alexandrine était agréable à voir. Elle faisait tout avec un air définitif qui semblait dire « C'est ainsi qu'on fait les choses, il n'y a pas d'autre méthode ». Rapidement, elle monta au premier et frappa un petit coup à la porte de son amie. « Je vous attendais ce matin à 11 heures comme à l'ordinaire, » dit-elle de son ton vif et net. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu ?»« J'étais occupée, » répondit Mademoiselle Alice, toute droite près de sa commode, résolue mais pâle d'émoi. « Occupée ? À quoi donc ?» Car Mademoiselle Alexandrine connaissait sur le bout du doigt toutes les affaires de l'amie qu'elle dirigeait. « À diverses choses de ménage. » Mademoiselle Alice avait prévu ses questions et préparé des réponses strictement exactes, quoique spécieuses. « Vos revues d'armoires sont faites depuis le mois d'avril. À quoi vous êtes-vous fatiguée, Alice ?»« J'ai mis en ordre la chambre d'amis. » Et, commençant à s'amuser de son rôle, elle ne put réprimer un léger sourire qu'heureusement, le petit juge d'instruction à cheveux poudrés ne remarqua point. « La chambre d'amis, tiens, vous attendez quelqu'un ?»« Non, je n'attends personne. » »« Clermonde ne manque pas de loisirs, cependant. Ne lui prenez pas sa besogne, ma bonne amie, vous la gâteriez.
En parlant de votre chambre d'amis, j'ai une petite amélioration à vous proposer. » Mademoiselle Alise trembla. « Changez la place du canapé. Dans l'angle où il est, on ne voit goutte. Et quand vous aurez une dame en visite, si elle veut s'étendre pour lire, elle serait beaucoup mieux vers la fenêtre. » « Vous avez raison, comme toujours, » répondit Mademoiselle Alise. « Je ferai ce changement. » « Si nous le faisions tout de suite, vous savez que ma devise est sur le champ. »« Oh non !» s'écria ma cousine avec une véhémence qui étonna son amie et ne fut pas loin de la blesser. « Comme vous voudrez, je n'insiste pas, et comme je vois que je vous dérange, je m'en vais. » Cependant, elle, toujours si décidée, restait incertaine, tournant dans sa main son joli parasol de soie écrue à pommeau d'agate. « Et notre promenade ? » dit-elle enfin. « J'y renonce pour aujourd'hui. »« Alise ? » ?»« Oui, j'y renonce. » Les yeux de ma cousine pétillaient. Une bravade incroyable s'emparait d'elle. « Pour quelle raison, s'il vous plaît ?» demanda brièvement Mademoiselle Alexandrine. « J'ai une lecture à faire. »« Bien urgente ?»« Mais oui, assez. » Qu'est-ce donc, un livre ? Lequel ? Marie-Antoinette de Monsieur de Chambrier. Ce n'est pas, en tout cas, une nouveauté de la dernière heure, fit Mademoiselle Alexandrine, la lèvre frémissante. Nous l'avons lu il y a 18 ans. Vous allez vraiment le relire ? Oui, il m'avait paru charmant et vous me l'aviez conseillé vous-même. Je n'en disconviens pas, mais pourquoi le relire aujourd'hui précisément ? « Parce que j'y ai pensé et que je prends aussi comme devise sur le champ. » Mademoiselle Alise s'amusait énormément, bien qu'un petit remords commençât déjà à lui chatouiller la conscience. « Mais je puis compter sur vous ce soir pour la réunion d'intérêt général, » reprit Mademoiselle Alexandrine avec quelque effort. Elle ne reconnaissait plus son Alise, sa disciple docile, sa coadjutrice toujours prête. « Ne m'attendez pas, je serai probablement retenue de 8 à 9. » Elle devenait téméraire et provocante. Elle agitait ses boucles, elle exultait de joie et de mystère. « Nous ne pouvons rien faire sans vous. Je contremanderai ces dames, » prononça la petite dictatrice, partagée entre l'effarement et la colère. « Ne vous agitez pas, ma bonne amie, je vous en supplie, » s'écria Mademoiselle Alise. « Vous savez combien cela est mauvais pour votre foi. Et comment ne m'agiterai-je pas quand je vous vois sortir à ce point de la règle ? Depuis 22 ans, nous faisons notre promenade ensemble à une heure fixe. Depuis 19 ans, vous me consultez pour vos lectures. Depuis 15 ans, nous avons tous les mardis soirs une réunion d'intérêt général. » « 15 ans !» soupira Mademoiselle Alise d'un air moitié distrait, moitié malicieux. « Il est bien temps que nous prenions des vacances. »« Quant à moi, je n'en réclame pas. La vie régulière suffit à mon bonheur, » déclara Mademoiselle Alexandrine avec énergie. « Vous vous en contentiez jusqu'ici, ma pauvre amie. Nous cultivions notre intelligence et nos fleurs, nous faisions une part à la conversation, aux bonnes œuvres, à tous les jolis goûts. Pourquoi donc en parler au passé, comme si l'une de nous deux était morte ?» s'écria Mademoiselle Alise un peu saisie. Mais sa compagne, triste et solennelle comme une oraison funèbre, poursuivit. Et tout cela entre femmes exclusivement. Aucune intrusion de l'élément masculin. Une paix, une tranquillité dans nos demeures. Ah, nous nous passons bien de ces hommes que l'on croit généralement une nécessité. Notre vie est remplie sans eux, et voulussent-ils y entrer, qu'ils n'y trouveraient pas la plus petite place. Nous n'avons pas d'animosité contre eux, mais ils nous laissent complètement indifférentes. Voilà notre base. Est-ce toujours votre base, Alise ? Elle fixait ses yeux noirs scrutateurs sur les boucles grises agitées et confuses qui se penchaient pour voiler un rougissant visage. Je vois votre malaise, ne me répondez pas. Quand il vous plaira de reprendre la vie normale, avertissez-moi, vous savez que je suis à votre disposition. Là-dessus, elle se retira, après avoir déposé sur la joue mince et blanche de la vieille fille un baiser froid comme un reproche.
Elle s'en allait, persuadée qu'Alise, à 58 ans, avait reçu une demande en mariage et qu'elle recherchait la solitude afin de composer sa réponse. « Je vous avais promis une lecture, » dit mademoiselle Alise en s'asseyant près du proscrit. « Voici un beau livre historique très émouvant. Vous intéressez-vous à Marie-Antoinette ?»«
Je l'ai un peu perdu de vue, » répondit-il avec le sourire amusé qui passait dans ses yeux comme une étincelle.
« Vous n'avez pas beaucoup lu dernièrement ?» Elle s'arrêta, palpitante, craignant et souhaitant des révélations. C'était avant l'épisode de la laitière. Il ne répondit pas tout de suite. Ses grandes mains noueuses se détachaient sur la couverture de fine laine blanche et il les considérait attentivement.
« Vous m'avez donné un trop beau lit, » dit-il enfin.
Ce fut tout ce qu'elle apprit au sujet de ses lectures. Il semblait défiant, par instants moqueur ou à moitié attendri. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour alléger la tâche de sa garde-malade et il la grondait même avec rudesse si elle avait l'air fatiguée à la fin du massage. C'était son merci que mademoiselle Alise comprenait très bien. Il disait, pour un chenapan comme moi, sérinté. Et mademoiselle Alise le racontait à Clermonde le soir dans sa chambre. Un jour, il lui confia solennellement qu'il s'appelait Pierre-Jean Favre, et le lendemain, non moins solennellement, il la supplia de lui pardonner d'avoir menti.
Faut être une fière canaille pour vous tromper, vous et vos petites mains, et votre bonne pommade, fit-il avec presque de la tendresse dans la voix. Et encore que vous ne me demandiez ni mon nom, ni rien du tout.
Pourquoi mentir alors ? Dit mademoiselle Alise, fort choquée.
C'est comme ça une fichue habitude que j'ai prise. « Si jamais je vous raconte mon histoire, ne vous y fiez pas trop. »
Cette idée parut l'amuser lui-même, si bien que plus d'une fois, il interrompit l'histoire de Marie-Antoinette, aux passages même les plus captivants, pour esquisser des biographies qui commençaient en ces termes « Je suis fils d'un prince de bonne famille » ou bien « Mon papa était un riche propriétaire de champs de carottes ». Mademoiselle Alise riait parfois, mais elle était peinée au fond. Elle aurait tant voulu qu'il se repentît. « Savez-vous, » dit-il un jour, le coude appuyé dans ses oreillers douillés et la regardant fixement, « que j'ai fait 6 ans de pénitencier ?»«
Non, 3 » répondit-elle avec calme.
« Ah, vous savez ça, et vous n'en disiez pas un mot ?» Après cela, il devint plus confiant et il raconta des traits de sa vie qui étaient vrais peut-être. Seulement, mademoiselle Alise ne le croyait plus. Les jours s'écoulaient, chargés de plus d'agitations invisibles, de remous de crainte et d'espoir que mademoiselle Alise n'en avait connus en 20 ans. Personne dans le village de Dames ne se doutait que la paisible maisonnette eût un hôte de plus, tant la vigilance des deux femmes avait été minutieuse. On avait côtoyé des dangers à faire battre le cœur. Ainsi, un beau matin, comme Clermonde était dans le jardin, agenouillée devant une corbeille de réséda et s'appliquant à composer le petit bouquet dont sa maîtresse fleurissait chaque matin la chambre du voleur, elle s'entendit appeler par-dessus la barrière. C'était Madame Perrault-Campillon qui passait dans le sentier. Ses beaux yeux d'almée mélancolique semblaient ne point voir les choses terrestres.
« Bonjour, Clermonde, » dit-elle affablement. « Vous avez des visites ?»«
Non, madame, nous n'avons pas de visites, » répondit la petite bonne sans hésiter. Ce point-là était fixé dans sa conscience. C'est qu'hier soir, comme je rentrais chez moi, j'ai vu de la lumière sortir par les trèfles du volet de votre chambre d'amis.
« Oui, mademoiselle y passe souvent les soirées à présent. » improvisa aussitôt Clermonde, sans le moindre trouble.
N'était-ce point la vérité, à la fois exacte et fallacieuse ?
Cette chambre est sans doute plus fraîche que la sienne.
Oui, madame, elle est très fraîche.
Et pour qui faites-vous donc ce petit bouquet ? Reprit la dame, car il était bien connu que mademoiselle Alise ne cueillait jamais de fleurs pour elle-même.
Mais pour vous, madame, si vous voulez bien l'accepter, s'écria Clermonde, en tendant ses brins de réséda et de verveine à la questionneuse, qui ne put que sourire et s'en aller.
Après quoi, l'héroïque jeune personne courut raconter ce fait glorieux à sa maîtresse, et toutes deux admirèrent une telle présence d'esprit. Un soir, l'homme dit « Demain, je me lèverai, et après-demain, je partirai. »« Si je vous le permets, » dit Mademoiselle Alise sévèrement, « je suis votre docteur. » Puis elle ajouta avec inquiétude « Où irez-vous ? » « À Genève, chercher de l'embauche. Je suis ébéniste quand je veux. » Les yeux gris de Mademoiselle Alise, arrêtés sur lui, exprimaient mille craintes, mille désirs. « Dans une grande ville, dit-elle enfin, il y a bien des mauvaises occasions. » Il haussa les épaules. « Je ne veux rien promettre, répondit-il à la supplication de ses yeux, dont il comprenait bien le langage. « Soyez honnête homme désormais. » « Parce que je ne me tiendrai pas, je me connais. Mais si je ne promets rien, je le tiendrai peut-être. » Ajouta-t-il avec son sourire d'ironie gouailleuse, le sourire d'un homme qui se moque de lui-même et qui n'est pas mauvais jusqu'au fond. Mademoiselle Alise fut abattue tout ce jour-là. Clermonde la trouva enfoncée dans une contemplation devant sa commode sur laquelle un petit carton blanc et or était ouvert. « Mademoiselle cherche quelque chose ? » demanda-t-elle avec sollicitude. Mais sa maîtresse ne fit que secouer la tête sans prononcer un mot. Il se trouva que M. le voleur, une fois debout, marchait très bien. Sa masseuse et chirurgienne pouvait être fière d'une si belle cure. On lui procura une canne, une belle canne en bois d'épine, à la tête piquée de clous d'argent, qui avait appartenu à mon grand-oncle le médecin. Ses habits, lavés et repassés, avaient bon air. Mademoiselle Alise lui donna une cravate noire, deux mouchoirs de poche, un paquet de provisions de voyage qui contenait deux petits pains, un gros saucisson et une tranche de pain d'épices. À la dernière minute, elle y ajouta un rouleau de chocolat. Tout était prêt. L'homme, debout au milieu de cette chambre où il avait passé 11 paisibles journées et étudié l'histoire de Marie-Antoinette, l'homme regardait autour de lui. Il était seul pour un instant. Mademoiselle Alise lui préparait en bas une tasse de thé, le coude l'étrier. Vivement, il se dirigea vers le poêle en faïence bleue, ouvrit la porte de fonte et plongea son bras dans la cavité, qui en cette saison était vide, soigneusement balayée. Tout au fond, dans un angle où était resté un petit amas de cendres, ses doigts saisirent un objet menu et l'amenèrent au jour pour y faire briller un instant sa surface d'argent gravé. Puis, aussitôt, ils le plongèrent au plus profond d'une poche. Clermonde appelait de derrière la porte fermée. « Le thé est prêt. Voulez-vous descendre ?» Il descendit, boitillant, car son genou éprouvait encore quelques appréhensions. Sur la table de la petite salle à manger, à côté du plateau où fumait la théière, un volume mignon, relié en maroquin bleu, était posé. « C'est mon livre d'anniversaire, » dit la vieille demoiselle. « Voulez-vous y inscrire votre nom, en souvenir ?» Puis elle ajouta, d'un air de délicat reproche, « Le nom que vous voudrez. » Ce fut lui qui rougit cette fois. Sa peau avait blanchi pendant la réclusion et l'on y voyait passer les émotions. « Et la date de votre naissance, s'il vous plaît ?» fit Mademoiselle Alise, le voyant hésiter, car il était peu coutumier de ses petits livres. Il écrivit, dans la page encadrée de filets rouges, ces deux mots d'une écriture lourde mais nette, « Louis Marais » et, secouant sa plume, car les gens illettrés se font toujours un devoir de secouer leur plume, il dit « C'est le vrai, celui-là. » Mademoiselle Alise sourit, car son scepticisme misanthropique avait repris le dessus, et elle fit doucement, avec une légère ironie, « Peu importe, ce n'est qu'un souvenir. » Ensuite, Clermonde demanda la permission d'apporter aussi son livre, relié en simple toile, pour y recevoir l'autographe du voyageur. On échangea des vœux réciproques. L'homme dit qu'il écrirait s'il pouvait. Il était déjà sur la porte. Mademoiselle Alise paraissait triste, lui hésitant. Tout à coup, il porta la main à sa poche, en tira l'objet menu, dernier fruit de son vol, le joli flacon d'argent que chérissait sa pauvre âme de voleur et qu'il n'avait pu, jusqu'à cette minute suprême, se résoudre à restituer. Il le tendit à Mademoiselle Alise. Faites-moi le plaisir d'accepter ce petit cadeau, dit-il avec sa manière moitié facétieuse, moitié mélancolique. Puis il s'en alla par la porte de derrière, dans la nuit tombante, et il eut bientôt gagné la grande route qui s'enfonçait sous la forêt. Ce soir-là, quand Clermont eut allumé la lampe à abat-jour de soie pourpre et installé sa maîtresse avec un tabouret sous les pieds, sa corbeille à peloton et son livre sur la petite table, les deux femmes se regardèrent silencieusement. Le sentiment d'un grand vide tomba sur elles. Leurs pensées s'en allaient vers une route, vers une gare, vers un train qui partait. Elles soupirèrent. « Ce pauvre voleur, comme il nous manque !» dit enfin Mademoiselle Alise.